Voilà, donc notre interrogation portait sur le suivi des PES avec les conseillers pédagogiques, PEMF et IEN. Alors, nous avons eu besoin d'énormément débattre afin d'échanger. Il y avait un gros besoin d'échange de la part de tous les stagiaires qui étaient à cette table. Parce que nous vivons des pratiques relativement différentes d'un département à l'autre, visiblement, quant à la logique de suivi des professeurs stagiaires. Alors, nous avons établi différentes questions. Qui, quoi, quand, où, pourquoi? Alors, en ce qui concerne qui participerait à la mise en place d'une formation de formateurs, nous avons décidé, après discussion, qu'il serait très positif que l'ensemble des formateurs concernés par la formation des professeurs stagiaires soient invités, à savoir les conseillers pédagogiques, les IEN, les maîtres formateurs. Quand le début d'année serait très propice, sachant qu'on se retrouve confronté avec une logistique de remplacement des maîtres formateurs qui n'est pas du tout évidente à gérer, je ne sais combien on a de maîtres formateurs exactement sur l'Académie de l'Isère, mais si on veut pouvoir réunir tout le monde autour d'une session de formation, on se heurte déjà à un premier problème de remplacement. Septembre-octobre nous paraîtrait très efficace, et puis que cette formation, bien évidemment, soit inscrite dans le PDF. Une proposition de 2 jours, plus un jour dans l'année, paraîtrait favorable à la mise en commun d'un cahier des charges. Alors, en ce qui concerne le contenu, là aussi, nous avons eu besoin d'énormément échanger et on vous fait une proposition qui mériterait d'être sûrement développée, enrichie. Alors, la proposition est la suivante. Nous mettrions un groupe en questionnement. Un groupe de formateurs, bien évidemment, un groupe hétérogène. On mettrait le groupe en questionnement par rapport à une vidéo de classe de la plateforme. On choisirait niveau 1, 2, 3 ou 4 en fonction de ce qui nous semble être cohérent par rapport à notre questionnement. Et la consigne d'analyse serait la suivante. Avec vos outils personnels de formateur, dégagez 3 conseils que vous donneriez à l'enseignant de la vidéo. Voilà, ça serait l'étape 1. L'étape 2 serait une mise en commun qui ferait apparaître bien évidemment la nécessité de créer une culture commune, c'est le cas de le dire. Cette mise en commun ferait apparaître également la nécessité d'apports théoriques. Et ensuite, il nous semblerait indispensable d'articuler ce cadre théorique qui nous serait proposé avec le cadre institutionnel propre à chaque région. Et Dieu sait que nous avons noté des disparités assez remarquables entre les départements. Et enfin, il s'agirait de mutualiser et de créer des ressources dont l'exploitation, bien évidemment, de NEOPASS. Et peut-être après, dans le futur, le fait que les formateurs adhèrent et s'engagent aussi en tant qu'experts dans certaines vidéos qui pourraient être ajoutées sur la plateforme NEOPASS, puisque pour le moment, cette plateforme ne concerne pas d'outils, ne présente pas, pardon, d'outils premier degré. Voilà, est-ce que j'ai dit ? Voilà, je passe le micro au groupe 2.
Est-ce qu'il y a des demandes de compléments, des questionnements, des choses qui vous surprennent ou qui vous, comme ça, font réagir dans la proposition qu'ils ont faite ? Okay.
Donc, notre groupe travaillait sur le thème 5, formation de formateurs second degré et analyse de l'activité. Donc, pour pouvoir travailler, nous sommes d'abord mis d'accord sur ce qu'on entendait par formateur, par formation de formateur et par analyse de l'activité. Ça peut paraître aller de soi, mais bon, c'est nécessaire. Puisqu'analyse de l'activité, ce n'est pas analyse de la pratique professionnelle. Formateur, ça veut dire reconnaître l'existence d'un métier à part entière avec des compétences spécifiques, donc lesquelles. Un métier dont le creuset serait d'abord celui d'exercer le métier de l'enseignement, mais qui ne serait pas en soi suffisant pour former un adulte donc un autre formateur, ou former un adulte, c'est-à-dire en entrant dans le métier. Et donc, en termes de formation, quelle ingénierie ? Alors, on a vu ensemble les modalités qui permettraient de répondre à différentes contraintes, notamment les contraintes calendaires et institutionnelles, pour un public de formateurs qui seraient les tuteurs et aussi les formateurs académiques ou formateurs référents, formateurs qui ont donc des missions différentes les uns des autres et qui interviennent auprès d'un même public, les entrant dans le métier. Donc on a réfléchi à un dispositif de formation qui serait de 18 heures avec 3 modules de 6 heures dont je vais décrire le contenu. Le premier module de 6 heures fondé sur l'utilisation de la plateforme Neopass et qui interviendrait au mois de septembre-octobre auprès d'un public désigné en juin. Si on connaît les formateurs trop tard, comment voulez-vous qu'en même temps ils soient désignés, ils prennent leurs fonctions et qu'on les forme? C'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est de, dans ces 6 heures, c'est d'expliciter déjà ce que c'est que le travail prescrit d'un formateur de terrain, d'un tuteur, etc., de travailler sur les textes institutionnels de cadrage pour bien circonscrire ce qui est attendu de la mission des uns et des autres, puis de basculer sur ce qu'on appelle le travail réel, puis l'activité professionnelle de formation, qui se ferait de manière crescendo, avec d'abord un questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'un entrant dans le métier, de manière à circonscrire les éléments typiques des stagiaires, au-delà de leur singularité, ils ont tous des points communs quand ils rentrent dans le métier, notamment sur des périodes circonscrites au niveau calendaire où le registre de leurs préoccupations sera plutôt centré sur la fin de l'apprentissage du métier tout en l'exerçant. Donc la mise en perspective avec les vidéos de Neopass, donc qu'est-ce que c'est qu'un entrant dans le métier, quelles sont ses préoccupations majeures à différents moments de l'année, sont-ils tous égaux par rapport à l'entrée dans le métier, oui, non, etc. Donc là, ça, c'est aussi une mise en commun de vos points forts en tant que formateur, vos points faibles, et de votre point de vue, les points forts et les points faibles de votre stagiaire. Et là, il y a un travail de mise en commun pour qu'ils se rendent compte que leur stagiaire, c'est pas un extraterrestre, que finalement, il a les mêmes caractéristiques que beaucoup d'autres stagiaires, et que eux-mêmes, eh bien, même s'ils n'ont pas reçu de formation, ils sont quand même, ils font des choses communes, mais ils font aussi des choses un petit peu différentes. Donc, il y a cette idée aussi que ces formations de 18 heures, elles sont par niveau, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, un premier niveau qui serait formateur entrant en fonction. Un deuxième niveau, formateur expérimenté, c'est-à-dire ayant déjà dans le passé exercé ses fonctions, ayant eu ou non une formation. Et niveau 3, c'est un niveau d'expertise, où là, nous avons des formateurs qui ont acquis et pérennisé des compétences spécifiques et qui sont à même pour faire parler leur métier et d'échanger sur des ressources collectives. Donc je reprends, excusez-moi, sur cette première journée. Mise en perspective avec les vidéos de Neopass, donc votre stagiaire et le stagiaire qu'on voit et l'entrant dans le métier dans Neopass, bon, comment utiliser ces vidéos-là, avec là une montée crescendo sur des compétences qui sont liées à l'observation d'une pratique professionnelle, la prise d'informations sur cette pratique observée, la discrimination d'informations et leur hiérarchisation pour la préparation d'entretiens de conseil et de formation. Donc là, c'est un moment de conception, d'échange et de confrontation de grilles préconçues ou conçues déjà entre pairs, de manière un peu bricolée, informelle, etc. Puisque bon, ces collègues, ils se sont débrouillés sans nous pendant un certain nombre de temps et ils ont déjà construit des ressources. Pour permettre ensuite de mettre en évidence qu'un entretien de conseil sur un temps très court, on ne peut pas aborder tout ce qu'on a vu. On est obligé donc de construire l'entretien sur des éléments saillants, plus ou moins remarquables, et que précisément quand on introduit l'analyse de l'activité, on essaie de travailler sur des actions observables, mais aussi sur ce qui ne l'est pas, c'est ce qui a été démontré au travers des différentes présentations des intervenants. Et que donc, à un moment donné, si on veut construire l'entretien de formation à l'aide de la vidéo, enfin s'appuyant sur la vidéo, encore faut-il savoir ce qu'on va tirer parti de cet usage-là. Et donc, on introduit dans la journée de formation des analyses d'entretien de formation. Plus des moments de pratique professionnelle, mais des moments de pratique de formation sur ces pratiques professionnelles. En sachant que, bien entendu, là, de notre point de vue, un néopass pour les entrants dans le métier, on pourrait imaginer un néopass pour les formateurs, qui eux aussi entrent dans le métier de former des enseignants. Et donc, il y a aussi des formateurs novices qui ont des dilemmes, qui ont des difficultés. Bon. Donc, c'est valable dans un cas comme dans l'autre. Analyse d'entretien de formation pour essayer de mettre en évidence que quand on travaille sur l'activité et pas que sur les pratiques professionnelles, on a besoin d'introduire des médiations objectives pour ancrer le conseil. Parce que, comme ça a été dit précédemment, quand on travaille sur ce qui a été vécu et ressenti par l'un, ça peut faire obstacle à la démarche réflexive de prise de côté qui est recherchée quand même dans un moment de formation. Et que pour, donc, on doit prendre en considération ce registre émotionnel, d'une certaine façon. Mais il faut aussi pouvoir le dépasser pour construire le conseil et avancer sur à la fois les besoins exprimés par le formé et les besoins aussi au regard des attentes de l'institution. Les 6 heures suivantes pour la J2, elle est ancrée sur une commande qui va être faite. Où là, cette fois-ci, on va s'interroger sur la thématique de cette journée, c'est comment optimiser le conseil, c'est-à-dire comment être sûr qu'on fait autre chose que discuter sans se comprendre avec l'autre personne. Et donc, on travaille sur des cas d'entretien de formation où, au-delà des apparences, en fait, il ne se passe rien en termes d'apprentissage professionnel, ou au contraire, il se passe beaucoup, voire des entretiens de formation qui mobilisent des médiations, c'est-à-dire des enregistrements sonores, de la vidéo, etc., etc. À la fin de cette J2, on introduit une commande. C'est parce qu'à la fin de cette J2, les collègues commencent à comprendre que, alors qu'ils croyaient pour certains des champions du monde du conseil en formation, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en troisième division et qu'ils sont, ce sont aussi des apprenants. Et ça change complètement la posture, qui fait qu'on peut leur passer commande de dire ben, « Vous n'avez jamais essayé de vous filmer en situation de formation, essayez d'introduire la vidéo. » Donc la troisième journée, qui forcément est décalée dans le temps d'au moins un mois et demi, ou deux mois, et donc qui la J2 serait au mois de décembre, avant les vacances, et la J3 plutôt mars, elle a plusieurs thématiques. Premièrement, on introduit là la possibilité que cette J3 soit une formation commune des tuteurs et des formateurs académiques ou formateurs référents, parce que ce sont des formateurs différents avec des missions différentes qui finalement peuvent très bien ne jamais se voir, jamais discuter de ce qu'ils font, alors qu'ils travaillent avec le même formé. Donc il y a l'idée d'introduire un collectif de formation pour bien préciser les missions des uns et des autres et être le plus complémentaire possible pour tendre vers l'acquisition des compétences professionnelles attendues et optimiser l'accompagnement professionnel. Donc on a un double public là et un travail sur qu'est-ce que c'est que travailler de manière collaborative et complémentaire. On introduirait aussi là la question de l'évaluation, à la fois l'évaluation formative, c'est-à-dire l'accompagnement professionnel, c'est garder des traces de différents moments de formation et de rencontre avec le formé. Comment optimiser ces traces en vue de constituer un rapport, une synthèse, et de devoir donc rendre compte et rendre des comptes, puisque les tuteurs sont maintenant chargés, pour une partie, de participer au processus de certification. Et on sait, par 15 ans de recherche sur la question, qu'à partir du moment où on mêle dimension certificative et dimension formative, ça pose énormément de problèmes et énormément de dilemmes que vont rencontrer ces formateurs-là. Ensuite, l'après-midi est centré sur l'analyse de la pratique du formateur qui a accepté de se filmer et qui est passé donc de l'autre côté, qui après avoir reçu des informations aussi sur le droit à l'image et les modalités contractuelles d'usage de la vidéo dans la classe ou dans une situation de formation, puisqu'on ne peut pas utiliser la vidéo contre la volonté d'une personne et surtout en la mettant devant la fait accompli. Donc il y a un apport d'éléments juridiques à faire, des documents à leur donner à la fin de la J2 pour qu'ils puissent travailler correctement pour la J3 et analyser la pratique du formateur filmé. Voilà. Donc il y a l'idée que, sans vouloir tendre vers les compétences du formateur, au travers d'un référentiel de compétences, la question de l'entrée par l'activité, à un moment donné, elle amène aussi à ressortir sur des compétences, mais peut-être des compétences métiers, par rapport au formateur, et pas un référentiel de compétences désincarné de l'expérience dans laquelle les savoirs et les connaissances sont mobilisés. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il y ait cette incarnation-là, il faut qu'il y ait des éléments de l'activité réelle des formateurs qui deviennent objets d'études et de travail. Voilà.
Alors, la Suisse a gagné à s'ouvrir un peu à l'Europe et on a collaboré avec Toulouse et les Pays Basques avec assez de bonheur. Donc, on a planché sur un dispositif de formation pour les enseignants débutants d'à peu près 25 heures sur l'entrée dans le métier avec les objectifs suivants. Notre idée était essentiellement de travailler sur le développement professionnel des enseignants débutants avec la question suivante: comment passer des savoirs académiques disciplinaires qui sont familiers aux néo, ceux qui vont détenir suite à leur formation universitaire, jusqu'à leur opérationnalisation dans la classe. Alors, petite boutade, on disait entre passage à risque et risques qui sont liés à tous ces passages. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était aussi de pas partir des néos uniquement, en guillemets, avec leur manque, mais aussi avec les expertises qu'ils détiennent, qui sont des expertises disciplinaires. Donc, ils ont un statut d'expert par rapport au contenu qu'ils enseignent, mais pas sur leur opérationnalisation dans la classe. Et donc, évidemment, l'idée, ce serait d'aller vers une situation de simple expertise, vers une situation de double expertise, avec une plus grande maîtrise aussi de tout ce qui relève de l'opérationnalisation en classe. Donc, notre ambition, c'était de réussir à trouver des modalités de conversion d'un objet académique en un objet didactique, avec une frise de situations de classe différentes, comme on l'a vu avec Néopass sur l'entrée dans le métier, mais là, avec plusieurs mode d'opérationnalisation de savoir, par exemple une leçon, puisqu'on était en didactique de la littérature par exemple, ou du français, on regardait comment une leçon sur un texte qu'on aimerait présenter aux élèves pourrait se décliner entre différents modèles, par exemple entre une séquence où l'enseignant resterait au plus proche du texte et celui qui finalement perdrait le texte parce qu'il est trop, il est beaucoup plus dans la gestion de la discipline, entre celui qui prendrait en compte les élèves dans leur appropriation du texte et celui qui resterait plus sur les savoirs académiques. L'idée, ce serait d'avoir vraiment une sorte de stock de différentes évolutions de l'opérationnalisation de la séquence prévue par l'enseignant dans la classe et de voir les possibles, avec l'idée de pas hiérarchiser ces différents possibles, mais de garder cette diversité pour, comme c'était souligné hier, ne pas figer la situation, mais bien montrer qu'il y a des évolutions possibles. Donc, évidemment, il y aurait du travail à faire pour produire ces séquences vidéo. L'idée aussi, ce serait de travailler au préalable avec les néos d'outils pour analyser les vidéos. Je crois qu'on l'a aussi montré. On part souvent du présupposé que de montrer les vidéos suffit, mais nous, il ne nous semble pas vraiment. Et notre question, c'était comment se donner les moyens de construire des outils pour analyser les vidéos à un double niveau. D'une part, au niveau de ce qui se passe dans la classe, et un deuxième niveau qui irait un peu plus loin, finalement, qui analyserait comment ce qui se passe dans la classe transforme, reconfigure les savoirs enseignés, et comment finalement, l'enseignant redécouvre l'objet qu'il est en train de travailler aussi à la lumière du vécu de la classe. Donc, on a prévu un déroulement, mais extrêmement large, hein, et pas du tout pensé en termes d'heures. Donc, qui pourrait avoir un premier temps de travail sur le travail préparatoire. Donc, on part de leurs compétences académiques sur la préparation du cours, puis à travailler sur des vidéos sur comment cet objet est traité en classe et comment la classe va reconfigurer l'objet, avec donc des vidéos contrastées à la fois sur la manière dont l'objet est travaillé et sur les passages à risque qui peuvent mettre à mal l'objet travaillé, que ce soit des transitions dans la séquence de cours, que ce soit des éléments dans l'interaction qui peuvent aussi faire basculer finalement la séquence, et puis travailler sur ces moments de bascule en partant d'une familiarité de situations qui soient très proches des débutants pour aller justement vers des situations expertes et d'essayer de comprendre ce que va gagner le professeur chevronné quand il gère ce type de situation, parce que pour nous l'expertise enseignante elle est dans la finesse de l'appréhension des éléments de bascule, de situation qui font que l'enseignant chevronné va pouvoir reconfigurer son action en fonction de vers où tend la classe, alors que l'enseignant débutant découvre un peu ces mécanismes. Alors l'idée, ce serait d'avoir, pour accompagner cette prise de conscience, des vidéos différentes en fonction aussi du moment où ils sont dans la formation, pour avoir des modes de lecture un peu de ces vidéos qui soient aussi différents. Et puis là aussi, dans une sorte de continuum, l'idée, ce serait dans un premier temps de travailler sur des vidéos externes qui seraient par exemple à disposition sur une plateforme comme Neopass, puis d'aller progressivement aussi sur des vidéos internes qui pourraient être produites par les enseignants, avec d'une part l'élaboration de cours, les entretiens sur les visées au moment de l'élaboration du cours, puis une vidéo sur la situation de classe avec un entretien d'autoconfrontation sur ce qui s'est passé par rapport à ce qui était anticipé avant le cours. Et du coup, un travail avec l'idée qu'une fois qu'on a les outils, parce qu'on les a développés en travaillant sur des situations externes, il est plus facile de venir sur des situations où on est soi-même engagé et d'analyser sa propre pratique.
Alors, notre groupe a apporté la réflexion sur l'accompagnement des T1, des T2, profs de collège et de lycée. Notre groupe était constitué de formateurs issus de plusieurs milieux, premier degré, accompagnateurs de professeurs stagiaires cette année-là, accompagnateurs de néo-titulaires T1, T2, donc assez variés. Et après un tour de table pour se situer un peu chacun, nous sommes partis d'une expérience d'une collègue, enfin une expérience, un vécu d'une collègue qui a utilisé Neopass sur Créteil dans la formation des néo-titulaires, des enseignants stagiaires. Et il en est ressorti, donc elle nous a présenté le déroulé de la formation. Si je peux vous le rapporter, ce serait rapidement une formation donc avec un jour libéré sur toute l'année pour ces enseignants stagiaires. Dans ce cadre-là, 7 jours de formation transversale regroupant toutes sortes d'établissements, donc collège, LP et lycée d'enseignement général et technique. Plusieurs représentants de discipline, à peu près 25 stagiaires par groupe, et la volonté, en tout cas le projet d'utiliser Neopass dans ces formations transversales. Le premier accueil a été réalisé après les vacances de Toussaint. Et la question qui s'est posée, c'est quoi faire dans ces regroupements transversaux? Et donc, l'utilisation de Neopass a été envisagée dans ce cadre-là. La première journée a été consacrée pour la matinée à étudier le cadre romain. Alors, pardon, la première journée avait pour thématique l'autorité en classe, l'autorité dans sa forme large. Et la demi-journée a démarré par un cas concret, donc Neopass, l'activité de Romain. Dans la mesure où le souci était d'utiliser un cas authentique, beaucoup de stagiaires ayant ce type de difficultés et pouvant s'y rapprocher, soit parce que c'est pareil, soit parce que je suis plus en difficulté, soit parce que je le suis moins. Donc voilà, on a déjà parlé de ces décalages, mais l'idée de départ, c'était de se reconnaître et de se situer. Premier temps, donc ça a été ça. Deuxième temps, l'autoconfrontation de Romain. Et troisième temps, Romain plus tard. Et ouf de soulagement. La plupart pensaient que tout se joue au départ. On l'a déjà dit beaucoup, mais ça s'est révélé. Et donc ils ont été rassurés dans l'idée de on peut progresser. L'après-midi a été consacré à la question de l'autorité, hein, donc sur cette thématique, avec des référents plus théoriques, rapportés à la pratique. Bon, je passe. J2 a présenté d'autres vidéos, Séverine, Nora, Lucie, par groupe, et de manière à considérer que Neopass est un outil qui permet d'analyser des conduites d'enseignants différents, et du coup les collègues peuvent se reconnaître dans l'un ou l'autre, et en sachant qu'il n'y a pas de modèle, mais il y a des situations de reconnaissance et peut-être des clés qui permettent de mieux comprendre comment on peut évoluer de manière positive. Et du coup, on s'est interrogé pour savoir, de notre côté, de formateurs, de néo-titulaires ou de stagiaires, qu'est-ce que nous allons pouvoir utiliser comme stratégie pour accompagner ces néo-titulaires. Alors, nous avons dégagé quelques idées par rapport à ça. On a été peut-être moins productif que d'autres groupes, mais la première idée, c'est de considérer que partir de cas concrets, de cas pratiques et de cas authentiques était une bonne entrée avec les néo-titulaires, plutôt que de parler de théorie d'entrée ou d'institutionnel. Démarrer sur du concret et de l'authentique, donc démarrer sur une vidéo néopass, pourquoi pas. Avec la première idée, c'est que la vidéo permet de parler, ils peuvent se reconnaître et apprécier les écarts. Pour cela, on a pensé que c'était nécessaire de s'appuyer sur un cadre d'analyse de la vidéo, ou en tout cas de lecture d'image. Nous sommes partis sur un outil, la construction d'un outil de lecture d'image qui s'appuie sur deux choses. La première, c'est un cadre qui est tiré de la sémiotique de l'image, qui reprend trois axes, ce que je ressens, ce que je vois, donc je décris les faits, et ce que j'interprète, et comment j'analyse l'image. Hein? Donc ça permet d'analyser des films ou autres. Hein? Bien. Et on a pensé croiser cette analyse d'image avec une observable de situation qui se traduit par trois axes. Le premier, c'est qu'est-ce que l'enseignant fait pour mettre les élèves en apprentissage. Alors c'est vrai que ces trois axes, ils sont très centrés sur l'apprentissage, hein, qui est le cœur de notre métier quand même. Donc premier axe, c'est qu'est-ce que l'enseignant fait pour mettre les élèves en apprentissage. Et on a considéré que Romain, dans l'entrée en classe, a déjà des fonctionnements qui devraient permettre de mettre en apprentissage, et on peut travailler là-dessus. Le deuxième axe, c'est porte sur qu'est-ce que les élèves font pour apprendre. Et le troisième axe, c'est comment les élèves savent ce qu'ils ont à faire pour apprendre. Et ça renvoie au degré de liberté accordé aux élèves, à l'émancipation, à l'autonomie, à la capacité d'apprendre à apprendre, etc. Voilà. Et on a réalisé un tableau à double entrée, donc en vertical. Et on va traiter cette question en deux temps. Le premier temps, suite au passage du film, les stagiaires vont aborder les ressentis, parce qu'on a pensé que les ressentis pouvaient couvrir, avec l'affectif et tout ce que ça fait remonter, l'ensemble de l'analyse. Du coup, il y a un premier temps qui porte sur les ressentis suite à la vidéo. Et dans le deuxième temps s'accorde à décrire et à interpréter, une fois que les ressentis sont traités, décrire et interpréter au regard des trois axes, enseignant, élèves en apprentissage et l'activité des élèves pour apprendre. On s'est dit que ce qu'il allait ressortir dans la diversité des propositions, on allait sans doute pouvoir voir les passages à risque, notamment dans les interprétations, ce que j'interprète, hein, dans ce que fait l'enseignant ou dans ce que font les élèves. On allait pouvoir avoir des éléments qui nous permettront d'avancer du point de vue des contenus de formation. Pour autant, on a pensé rajouter en bas, en dessous de ce tableau à double entrée, une sorte de bilan qui pourrait porter sur et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin, pour avancer, hein, en fait, le pas en avant. Et puis, peut-être quels passages à risque ont été relevés pour bien les identifier de manière un peu claire, les formaliser. Et on s'est dit qu'on pourrait tester cette grille, et puis on peut peut-être communiquer par rapport à ça, et du coup faire évoluer.
Rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Alors on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de notre matériau que vous avez vu ce matin. Voilà. Alors... la première chose qui est ressortie, c'est l'idée des cas extrêmes, c'est-à-dire que l'engagement fort des T1 nous donne une grande responsabilité. Et ce qui a frappé certains, c'est la prise de risque des T1 dans les forums, où ils se sont fortement exposée. La question, c'était comment on peut réduire cette prise de risque. Donc, avec la proposition de faire une modération a priori des messages pour limiter cette prise de risque, ça risque de tuer complètement l'exercice et de rendre complètement impossible les choses. Donc là-dessus, on n'était pas d'accord. Donc là, de toute façon, on l'a pas fait. Donc on s'est dit, maintenant que c'est fait, qu'il y a eu cette prise de risque, cette exposition, l'idée, c'est absolument qu'il y ait une réponse et que d'autres réseaux prennent le relais. C'est-à-dire que là, on sort du contexte de la formation pour les cas extrêmes et on trouve d'autres réponses à travers d'autres réseaux. Alors, je vous rassure, c'est déjà le cas. Hein. Tous les cas extrêmes ont déjà été traités de façon individuelle. Alors pour les autres, l'idée que l'on avait en arrivant, et on est resté un petit peu sur cette idée, c'est de faire des synthèses, des propositions des nouveaux titulaires, en faisant des typologies des solutions proposées pour aboutir à une boîte à outils qui leur est accessible, en mettant l'accent sur ce qu'ils ont mobilisé pour répondre, hein, la nature des arguments utilisés. Je vous dis ça parce que je le fais, je vous dis ça parce qu'un autre le fait, parce que je sais que ça se fait, ou bien des études montrent que, etc. Problématiser les arguments, est-ce que c'est une réponse pratique, une réponse institutionnelle, une réponse qui correspond à un cadre de recherche, et identifier les classes de situation, y compris dans le forum libre, hein, là où les T1 ont spontanément déposé des situations. Évidemment, après, l'argument correspond à une classe de situation où on peut faire des liens. Enfin, il y a débat sur le lien entre les arguments et les classes de situation. Et justement, l'objectif, c'est de rendre les T1 autonomes dans cette démarche. Et là-dessus, on se rend compte que c'est peut-être très ambitieux de vouloir aller jusqu'à l'autonomie tout de suite. Hein, on a peut-être pas les moyens de le faire dans le cadre que l'on a là. Notamment, on s'est posé la question du cadre théorique que l'on peut proposer dans ces synthèses, ou le cadre théorique avec lequel on peut analyser les propositions pour les exposer dans la synthèse, avec plusieurs remarques. Un cadre théorique, c'est peut-être fort peu, ou bien il faut un cadre non clivant. Est-ce que un cadre, c'est aussi peut-être un peu tard? Est-ce qu'il aurait, ce sont des titulaires première année, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit arrivé avant? Ou bien se limiter à quelques axes d'analyse non clivants, donc c'est plutôt ça qu'on a retenu, donc ces axes ne sont pas encore forcément très définis, mais l'idée c'est, lorsque j'analyse la situation, j'ai aussi une attitude réflexive, d'où viennent mes arguments, j'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais aussi qui est le fautif, d'où vient le problème, quel est le rapport avec ma discipline, avec l'enseignement de ma discipline. Donc un certain nombre d'axes comme ça à définir. Sur les vidéos en particulier, la question du lien à NeoPass, c'est pareil, ce n'est pas tranché. Ça c'est quelque chose, on n'a pas la solution, mais est-ce qu'il faut en gros copier NeoPass dans notre plateforme de formation, ou bien renvoyer les gens sur NeoPass qui en plus propose d'autres situations avec un autre contexte, avec une progressivité. Mais on n'est pas sûr que les apprenants vont suivre le chemin, hein, pour le faire vite. Quand ils sont devenus titulaires, ils ont une boîte académique, ils ont 8 profs, ils ont Gaïa pour s'inscrire à la formation, ils ont Performance, la plateforme qu'on utilise, ils ont aussi Centra pour le réunion virtuelle, ils ont NeoPass, ils ont le portfolio pour le C2I2E. Enfin, la multiplicité des plateformes, ça pose quand même problème. Et donc moi, ça m'interroge aussi sur la conception de la formation et sur la mise à disposition des ressources. Si chaque ressource arrive avec son propre format, sa propre structure, sa propre identification, on se retrouve dans une situation intenable pour l'organisation de la formation. Sur la suite à donner, après ces synthèses, ces mises à disposition de synthèses, donc qui vont arriver une fois que le feu un peu s'est calmé, hein, on va être un petit peu sorti de la passion du moment, ce qui est pas mal. Donc l'idée, c'est de transmettre le flambeau aux formateurs disciplinaires. Hein, la prochaine formation qui va avoir lieu avant la fin de l'année 2010, c'est une formation disciplinaire. Donc l'idée, c'est de redonner les clés des éléments de synthèse, mais à destination des formateurs disciplinaires, pour qu'eux puissent réengager ces éléments dans la formation disciplinaire et puis prendre en compte les spécificités disciplinaires dans cette problématique que l'on s'était fixée pour cette formation. Donc voilà un petit peu ce que l'on a dit.
J'ai pas bien écouté le début là parce que j'envisageais de prendre un train et je vais le reporter un tout petit peu. Est-ce que tu as évoqué les cas limites ou les cas critiques ?
Oui, on
en
a parlé.
D'accord. Mais pas plus sinon. Ouais. Il me semble que c'était important de montrer comment ce dispositif-là permettrait, avec la mise à distance possible, de révéler des cas problématiques qui, à notre sens, sans ces forums, peuvent rester beaucoup plus obscurs au regard des formateurs et du coup faire d'autant plus de dégâts qu'ils ne sont pas connus et que les personnes ne peuvent pas être aidées pour dépasser des situations critiques qui les affectent. Donc, voilà.
Est-ce que ça suscite des bouts d'échange ? Alors moi, je voudrais juste dire mon point de vue sur ce que j'ai entendu comme ça. Je suis toujours très impressionné par la capacité, dans des petits moments et sous tension et avec des gens qui se connaissent pas, à formuler des propositions qui, si elles sont bien sûr toujours incomplètes, voilà, font cheminer un certain nombre de choses, réorganiser, prendre de la distance, dire des choses qu'on pense comme relativement simples, finalement, maintenant qu'on en est là, mais qui nous permettent de mesurer un tout petit bout du chemin parcouru. Sur la question du tableau, par exemple, parce que ça a éveillé en moi un certain nombre de choses que j'ai déjà croisées en formation. Cette idée de regarder ce que les trois choses, ce que l'enseignant fait, ce que l'élève fait, ce que l'élève sait que l'enseignant attend. C'est une grille qui apparaît comme ça assez simple, mais qui, somme toute, n'est pas si courante que ça. Je voudrais juste faire... Moi, ça évoque chez moi le travail de Jacques Bernardin, que peut-être d'aucun d'entre vous connaît, qui a écrit des choses soit dans le cadre du GFEN, soit dans le cadre de travail qu'il mène en formation de formateurs. Avec lui, on s'était livré à un petit jeu très amusant, c'était de faire que les enseignants débutants qu'on avait interrogent leurs élèves sur qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre, et on s'était aperçu que les réponses des élèves étaient strictement corrélées avec leur catégorie sociale d'appartenance. Et pour reprendre ce que Patrick Rayou nous disait, on voyait bien comment le discours horizontal et le discours vertical, au sens de Bernstein, étaient totalement présents dans les classes et pas du tout mesurés par les collègues, en particulier lorsqu'ils étaient débutants. Et cette question de toute bête, de comment tu t'y prends pour apprendre et qu'est-ce que tu viens faire à l'école et ça sert à quoi l'école, c'est des choses qui sont un implicite, rarement travaillé. Et les ressources de Paris 8 sur cette question-là sont immenses. D'autres réactions comme ça, je vous le dis, ce que ça fait cheminer dans notre petit univers personnel.
Oui, deux remarques. Toujours pareil, il faudrait du temps, et peut-être que c'est assez frustrant de voir les exposés si rapides, parce qu'on aurait voulu poser des questions un peu dans les détails et interpeller les personnes pour clarifier un peu les choix qui ont été faits. Je trouve tout à fait pertinent, dans un premier temps, que les gens utilisent ou non Neopass et s'en affranchissent, éventuellement braconnent pour pouvoir récupérer quelques vidéos sans les autorisations, mais bon, ça fait partie du job des formateurs. Je crois qu'il faut, comme le disait Guillaume aussi ce matin, c'est-à-dire qu'en gros, si on regarde quand même les côtés positifs d'un changement de donne dans la formation en France, c'est bien cette réactivité qu'on est obligé d'avoir pour recomposer, et peut-être vraiment, enfin en tout cas j'ai dit aussi hier, c'est réfléchir avec des concepts nouveaux, des orientations nouvelles. Et je trouve que ce matin, vous nous avez aussi un peu dérouté par rapport à ce forum qui pose plein de nouvelles questions. Donc là, je crois que c'est le moment de faire ça. Et que s'il n'y avait pas eu cette rupture, cette fracture dans le contexte national, peut-être qu'on serait, on n'en serait pas là. On serait ailleurs, mais on ne serait pas en tout cas en train de se poser ces questions-là. Et puis j'ai beaucoup aimé l'idée des Suisses. enfin, en tout cas du groupe international. Ça rejoint une critique faite sur Neopass dans notre façon de faire du travail sur assez phénoménologique par rapport à comprendre des débutants en étant dans la peau des débutants au point de perdre la classe. On peut arriver dans une sorte de solipsisme en s'enfermant dans le monde des débutants et perdre tout autre repère. Et c'est vrai que ça peut être une des critiques qui apparaît. C'est de, parfois, je pense que ce qui est important, notamment par rapport au self, hein, en tout cas aux préoccupations liées à sa propre personne dans l'entrée dans le métier, c'est d'arriver à créer cette décentration. Alors, si se centrer sur eux à un moment donné pour faire repérer ce qui est partagé et typique, je pense qu'il faut qu'on arrive à amorcer un décalage, une conversion même des regards. Et tu l'as joliment dit tout à l'heure, Valérie, cette possibilité de voir comment l'objet a pu être recomposé ou en tout cas digéré par la classe, et voir au niveau du vécu de la classe, qui est aussi un objet assez sympa, de voir comment dans la dynamique collective de la classe, ce qui était proposé s'est recomposé, comment ça s'est interprété. Je crois que là, il y a des objets intéressants, mais qui permettront ou devraient permettre aux débutants de sortir de leur propre univers. Et je crois que c'est bien ça. Ces moments d'analyse de l'activité, ça doit permettre de repérer d'autres objets qui sont pas forcément directement les points centraux en termes de perception même, eu égard à leurs propres préoccupations.
Alors, une autre chose qui me semble aussi assez ouverte par vos retours, c'est la question de la collaboration interprofessionnelle. Alors, c'est une de mes marottes personnelles, mais il me semble que moi, je la vois encore en filigrane là de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on voit bien que chaque catégorie n'a pas en soi la capacité à régler les questions qui se posent, c'est-à-dire les formateurs de l'UFM, les conseils pédagogiques, les inspecteurs, les cadres académiques, qui qu'on soit. Aujourd'hui, on est dans une organisation, en tout cas chez nous, je ne sais pas ailleurs, mais on est dans une organisation qui est à la fois une institution, une machine bureaucratique, qui fait que il ne peut pas y avoir de solution qui soit à l'interne d'une catégorie. C'est-à-dire que chacun développe ses propres souffrances sur son travail empêché, et à la fois, il faut construire des cadres collectifs et faire des collectifs de métiers, mais à la fois, il y a besoin de fabriquer des espaces, des situations, des moments de collaboration intermétiers où on arrive à comprendre les tensions des autres. Et ça, moi, je trouve que c'est les choses qui sont de plus en plus complexes au fur et à mesure que la tension s'accroît sur le système. C'est-à-dire que, évidemment, plus les moyens de formation descendent et plus les tensions deviennent infernales et plus la prescription... on sait bien qu'aujourd'hui, dans la masse budgétaire qui arrive dans un rectorat pour faire de la formation, on est, selon les cas, entre 50 et 90% de la masse budgétaire qui est déjà contrainte avant qu'on commence par il y a ça et ça et ça et ça. Pour ce que je connais bien dans le premier degré, il y a 90% de la masse budgétaire qui est contrainte sur la formation des directeurs, un bout de choses sur les néos, la formation ASH obligatoire, et c'est tout. Donc évidemment, au fur et à mesure que la situation sociale, politique, institutionnelle, etc. se complexifie, c'est d'autant plus difficile et ça crée d'autant plus de frustration et de sentiment d'impossibilité d'agir, hein, pour reprendre l'expression de Claude. Mais et c'est vrai que moi je suis assez sensible, parce que pour être à différents endroits de l'institution selon les moments où on intervient, il y a à la fois des projections sur les autres catégories professionnelles et des procès d'intention, hein, qui sont assez forts et qui du coup constituent pas de la ressource. Et moi, ce que j'entends aussi dans les différentes propositions là que vous avez faites ici, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment on fait malgré tout pour comprendre les logiques d'action des autres et pouvoir installer des petits bouts de cadre, des petits bouts de travail, d'échange qui vont susciter de la confiance, de la collaboration, des projets partagés, enfin voilà. Alors, si vous n'avez... Enfin, on a le temps encore de prendre le temps de continuer à discuter si on est toujours dans le contrat qui était celui de cet après-midi. Et puis, alors il y a deux solutions, soit par rapport au... On était resté éventuellement avec quelques collègues qui avaient encore des choses à nous présenter. Bon, là, les collègues de l'Académie de Créteil, vous en avez dit une chose. J'aurais voulu, moi, éventuellement poser des questions subsidiaires par rapport à Créteil. Est-ce qu'il y a, avant que je le fasse, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont encore des choses dont ils aimeraient parler en grand groupe de leur expérience? Si c'est pas le cas, éventuellement, on peut finir avant 17h. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'imposition de l'horaire non plus. Hein. Est-ce que quelqu'un souhaite encore, au-delà des différentes présentations qu'on a faites, nous dire, bah voilà, moi, avec cette entrée, voilà où on en est, voilà notre problématique, voilà ce qu'on fait avec nos débutants, voilà les questions qu'on se pose.
C'était par rapport au choix technologique et à l'inscription dans le paysage qui existe, puisqu'on a un outil avec l'identification, etc., qui vient s'ajouter à plein d'outils existants. C'est pas un paysage vierge. Et si vous vous étiez posé la question de vous inscrire dans un autre cadre, comment le choix s'était fait, en fait, que ce soit un outil autonome.
Pourquoi est-ce qu'on a fait Neopass sur le site de l'INRP avec la technologie qu'on a faite et organisée comme ça? Et pourquoi on ne l'a pas posé ailleurs, sur Performance, sur d'autres endroits?
Tu peux répondre, Patrick. Merci pour la traduction simultanée. Je sais pas, Patrick est fatigué, donc je réponds. J'ai l'impression d'avoir répondu un peu hier sur le fait que il y a eu au niveau de l'INRP une réactivité forte par rapport à ce projet-là. Je résume de façon un peu cinglante, hein, mais c'était quand même 3 mois, 30 personnes, 30 000 euros. Donc il a fallu très rapidement mettre beaucoup de force en présence pour pouvoir travailler tout un été sur cette première brique. Donc on insiste bien que 3 mois avant, il n'y avait rien de construit. Ça a démarré le 12 avril et que ça a été bouclé au 29 août. Donc on aurait pu le faire ailleurs, mais je ne sais pas où, comment, quelle durée cela aurait pris. C'est tout, hein, il n'y a pas d'autre...
Je mettrais un ou deux autres peut-être. C'est la nécessité qu'on était un certain nombre à l'INRP à imaginer que c'était pas mal si l'INRP montrait qu'il savait faire quelque chose en lien avec le terrain. Et deuxièmement, dans une période un peu trouble, de positionner aussi l'INRP par rapport à ça. Moi, pour tout dire aussi, le sentiment que j'avais qu'un certain nombre d'outils disponibles sur le marché nous auraient absolument pas permis de faire ce qu'on voulait faire, comme on voulait le faire, avec une idée, un synopsis assez précis de l'organisation, etc.
Ce qu'on n'a pas fait, Patrick, c'est qu'on aurait pu jeter un œil sur une tenue de classe. Enfin, c'est peut-être pas forcément le moment de le faire, mais enfin, on aurait pu sérieusement s'attacher à voir ce qui est proposé, parce que je suis pas sûr que tout le monde...
J'attendais de voir qu'on finisse ça, mais avant je voulais repréciser le cadre par rapport à demain, et puis je vous fais cette proposition-là. Demain matin, on a deux présentations qui sont totalement d'un registre différent, donc Serge va présenter quelque chose qui va nous montrer des néos en train d'utiliser Neopass, et donc il nous fera un retour sur ce qu'il voit en action lorsqu'un néo utilise Neopass en situation relativement autonome, enfin juste avec quelqu'un qui recueille ses impressions au fur et à mesure. Donc un travail qu'il a fait à Montpellier, Serge Leblanc, qui est un des co-contributeurs de la plateforme qui est sur le CRDP et l'UFM de Montpellier. Et le deuxième, donc ça va être assez, voilà. Et le deuxième temps, comme je vous l'ai indiqué, donc Yuri Maignan, qui travaille plutôt dans une perspective de clinique de l'activité, perspective clotienne, on va dire, qui va nous présenter un travail, enfin qui va nous mettre au boulot sur un atelier autour de traces d'autoconf croisées d'élèves. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez des choses que nous ont dites les collègues tout à l'heure. Donc ça va être assez chargé et dense. Et on n'aura pas beaucoup d'espace dans ce temps-là pour faire autre chose. Et même là, ça va être assez contraint. Demain après-midi, on sait toujours qu'il faut finir pas trop tard, mais on essaiera de finir pour 4h30. Dans le temps de demain après-midi, il y a en gros poursuite. Enfin, il n'y a pas d'apport particulier sur cette chose-là. C'est poursuite du travail sur la question de l'ingénierie, des ressources, des suites que vous voulez donner à ce travail, de qu'est-ce qui est nécessaire de construire ensemble. Il n'y aura pas forcément d'apport très important pour vous permettre de vous laisser aussi continuer à reprendre votre souffle et à cheminer. Donc, ce cadre étant posé, effectivement, on a dans la demi-heure qui vient On avait prévu de vous montrer un petit peu de choses autour de la plateforme, enfin les ressources qui sont proposées pour le ministère. Et éventuellement, on peut discuter de ça si vous en avez encore la force pour un petit moment.